Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le magazine Pèlerin propose cette semaine un dossier de 22 pages illustré par des photos vues du ciel des cicatrices de la Grande Guerre. Franck Ferrand en profite en ce 8 mai pour évoquer la vie de ces tranchées. Bonjour Franck.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Ce numéro de Pèlerin propose aussi toutes sortes de balades à faire en famille sur les traces des poilus. Benoît Fidelin est là pour nous en parler, ainsi que Jean-Pierre Guénaud que connaissent bien nos auditeurs. Jean-Pierre Guénaud, commissaire de l'exposition Entre lignes et tranchées au musée des lettres et des manuscrits jusqu'à la fin de l'été. Et jusqu'au 31 août.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Alexis via la page Facebook de l'émission qui souhaite connaître l'origine des expressions « prendre la poudre d'escampette et filer à l'anglaise ».
Eh bien, voilà, nous allons réfléchir pour lui répondre. Pour le moment, je vous propose de plonger pendant une heure au cœur de l'histoire des tranchées.
Europe 1. Cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il était une fois 5 soldats qui faisaient la guerre parce que les choses sont ainsi. Le premier, jadis aventureux et gai, portait à son cou le matricule 2124 d'un bureau de recrutement de la Seine. Il avait des bottes à ses pieds prises à un Allemand et ses bottes s'enfonçaient dans la boue de tranchée en tranchée à travers le labyrinthe abandonné de Dieu qui menait aux premières lignes. L'un suivant l'autre et peinant à chaque pas, ils allaient tous les 5 vers les premières lignes, les bras liés dans le dos. Des hommes avec des fusils les conduisaient de tranchée en tranchée, floc et floc des bottes dans la boue prises à un Allemand, vers les grands reflets froids du soir, par-delà les premières lignes, par-delà le cheval mort et les caisses de munitions perdues, et toutes ces choses ensevelies sous la neige. Il y avait beaucoup de neige, et c'était le premier mois de 1917 et dans les premiers jours. Le 21-24 avançait dans les boyaux en arrachant, pas après pas, ses jambes de la boue, et parfois l'un des bonhommes l'aidait, en le tirant par la manche de sa vieille capote, changeant son fusil d'épaule, le tirant par le drap de sa capote raidie sans un mot, l'aidant à soulever une jambe après l'autre hors de la boue. Et puis des visages. Il y avait des visages et des dizaines de visages, tous alignés du même côté dans les boyaux étroits, et des yeux cernés de boue fixaient au passage les 5 soldats épuisés qui tiraient tout le poids de leur corps en avant pour marcher, pour aller plus loin vers les premières lignes. Sous les casques, dans la lumière du soir par-delà les arbres tronqués contre les murs de terre perverse, des regards muets dans des cernes de boue qui suivaient un instant de proche en proche les 5 soldats aux bras liés avec de la corde. Attention au fil, ils avançaient la tête nue dans les tranchées de première ligne, ces 5 soldats français qui faisaient la guerre, les bras liés avec de la corde détrempée et raidis comme le drap de leur capote, et sur leur passage quelquefois une voix s'élevait, une voix tranquille, jamais la même, une voix neutre qui disait « Attention au fil ». Ces phrases sont les premières du chef-d'œuvre de Sébastien Japrisot, Un long dimanche de fiançailles, et je vous avoue que je ne les lis jamais sans être envahi d'émotion. Attention au fil, attention à ce fil qui court le long de toutes ces tranchées. Je ne connais pas beaucoup dans toute l'histoire de France de lieux aussi chargés d'affreux souvenirs que ces fameuses tranchées de 14-18 étirées tout au long du front. Ce que j'aimerais évoquer cet après-midi, c'est la vie quotidienne dans les tranchées de la Grande Guerre, même s'il est permis, comme le dit Jean-Pascal Soudagues, de se demander si on peut réellement parler de vie quotidienne des soldats dans ces tranchées. Les termes « vie » et « quotidienne » ne sont-ils pas inconvenants, demande-t-il, choquants et même tout simplement indécents pour évoquer les misères, le cafard, les blessures, morales comme physiques, la peur de ces hommes ? Quotidien, l'adjectif a un sens de routine, de banalité, de monotonie que les soldats de la Grande Guerre auraient été assurément heureux de connaître, mais dont on ne peut en aucun cas qualifier leur séjour en première ligne. De plus, vie est-il approprié pour des hommes qui risquent de la perdre à n'importe quel moment, lors d'un coup de main ennemi, d'un tir trop court de leur propre artillerie, d'un moment d'inattention ou d'un acte de bravoure ? Faut-il insister sur la raison d'être de ces fameuses tranchées ? S'enterrer, c'était se protéger des balles et des explosions. nous dit Jean-Yves Le Naour. La tranchée, c'est une horreur, certes, mais en 1914, c'est d'abord une protection. Alors ces tranchées, elles ont été constituées de manière différente. D'abord, elles ne se ressemblent pas toutes, pas du tout. Certaines ont été vraiment improvisées parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Elles ont même été creusées à main nue ou avec les gamelles. On est en août, en septembre 1914, et au moment de la retraite, au mois d'août, les outils portatifs jugés trop lourds ont été souvent abandonnés. Et généralement, ces tranchées, elles ont été creusées en pleine nuit pour des raisons de discrétion. Elles sont creusées en fonction de la nature du terrain, bien entendu, qu'il s'agisse d'argile, de glaise ou parfois de roche. Elles sont plus ou moins profondes, constituées de parois, elles aussi plus ou moins rectilignes ou stables. Devant les tranchées, la défense immédiate est constituée par des réseaux plus ou moins denses de fils de fer barbelés, entrecroisés et fixés à des piquets en bois, puis métalliques. Des travaux auxquels les hommes, là aussi, ne peuvent s'acquitter que de nuit et avec d'infimes précautions afin de ne pas éveiller l'attention de l'adversaire. Ces tranchées, elles sont construites, elles sont creusées en zigzag, bien entendu. Vous n'avez pas de ligne droite. Et ça représente 700, 800 kilomètres de tranchées comme ça depuis la mer du Nord et jusqu'à la Suisse, creusées des deux côtés, bien entendu, allemand et français. Elles font en moyenne 3 mètres de profondeur à peu près et elles constituent peu à peu une sorte de labyrinthe parce que bien sûr, vu du ciel, comme on le voit sur les clichés de Stéphane Compoint dans ce numéro spécial de Pèlerin, évidemment, vu du ciel, ça paraît relativement lisible. Mais lorsqu'on est là, au sol, sous le sol, immergé dans ce labyrinthe, alors il y a de quoi tout y perdre. Voilà ce qu'écrivait Pierre Champion dans Le Poilu. C'est un vide de terre, dit-il, un invraisemblable labyrinthe, notre fourmilière. Mon abri, c'est une sorte de cave taillée dans la terre, creusée avec un grabat fait de fagots, d'un treillis de fil de fer et d'un peu de paille. Rien ne marque plus pour moi la mesure du temps. Je fais un trait de crayon sur mon calendrier de poche afin de compter les jours, comme les ouvriers illettrés entaillent un morceau de bois. Le jour, je me promène dans les boyaux torrides, aucun visage. Nous sommes devenus les hommes de la terre, les hommes des cavernes dont nous aurons bientôt l'aspect et les mœurs, des ombres, c'est bien cela que nous sommes. Alors, c'est Japrisot qui parlait des tranchées de première ligne. Il n'y a pas que les tranchées de première ligne, bien entendu. Reliées par des boyaux, vous avez les tranchées de deuxième et de troisième ligne, ce qui constitue le cadre familier, ce qui constitue alors vraiment le quotidien des poilus. Plus ou moins aménagé, nous dit Soudagne, la tranchée offre un curieux spectacle avec des abris de dimensions et de formes variées, creusés dans les flancs de la terre. Ce qui frappait surtout dans ces installations de fortune, c'est que les matériaux utilisés pour leur établissement étaient déjà des déchets et des rognures, vieux bois, vieilles armes, vieux ustensiles de cuisine.
C'était la bande originale du film de Jean-Pierre Jeunet en 2004, Un long dimanche de fiançailles avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel. Et nous retrouvons tout de suite Franck Ferrand et la suite de son récit sur les conditions de vie des poilus dans les tranchées.
Évidemment, ce qui rythme d'abord le quotidien des poilus dans ces tranchées, ce sont les repas, c'est la nourriture, hein, c'est absolument essentiel. Il ne faut pas oublier qu'il y a dans ces tranchées des gens qui viennent de toutes les régions et qui même viennent de tous les pays en l'occurrence, et qu'il faut tenir compte un minimum de cette origine géographique. Une ration au front est constituée de 600 grammes de pain de guerre ou 750 grammes de pain ordinaire, voire 700 grammes si c'est du pain biscuit. 200 grammes de viande de conserve et 400 de viande fraîche, de la viande réquisitionnée à l'intérieur du pays, ou des conserves qui, elles, alors sont fabriquées un peu partout en France. 60 grammes de légumes secs, essentiellement des haricots, les faillots, hein, comme on dit dans les tranchées. 21 grammes de sucre, 16 grammes de café, 50 grammes de potage salé, mais aussi des pommes de terre et du riz, qui parfois est remplacé par des légumes secs. Et la soupe, c'est cette espèce de plat principal composé de viande appelée communément la barbaque, associée à des pâtes, du riz, des faillots, des patates, tout ça assez liquide, de plus en plus liquide d'ailleurs à mesure qu'on avancera dans ce conflit, et c'est la raison pour laquelle on appelle ça la soupe. Cette soupe est ce qui rythme le plus la vie des combattants. Le riz très souvent est mal cuit, caoutchouteux, les pommes de terre sont plus ou moins bien épluchées, inutile de vous le dire. On peut dire que ce qui complète cette nourriture, c'est l'alcool, bien entendu. Alors, nous parlerons tout à l'heure du rôle du vin dans les tranchées. Il faudrait parler aussi de l'alcool de la gnôle, hein. On a beaucoup insisté sur l'utilisation qu'on avait fait de cet alcool pour, en quelque sorte, donner du cœur au ventre aux gens. Je cite de nouveau Jean-Pascal Soudagne. La fameuse gnôle, dit-il, qui tenait le milieu entre l'alcool à brûler et l'élixir parégorique, n'a pas eu seulement le rôle d'excitant distribué les veilles d'attaque que certains écrivains pacifistes, souvent ignorants de la réalité du front, ont exagéré à plaisir. Elle a été souvent le coup de fouet qui ragaillardissait de pauvres hommes épuisés de fatigue, regain de chaleur animale dans une nature où le froid gelait parfois la soupe et jusqu'au vin. Je ne peux pas évoquer tout ça sans penser à ce que nous avions dit il y a 2 ou 3 ans à l'occasion d'une émission sur le 11 novembre, où je m'étais permis de revenir sur un certain nombre de grands témoignages de l'époque, et notamment le témoignage des infirmiers de 14-18, où l'on voyait que ces conditions épouvantables, et où l'on voyait notamment que cette peur qui tenaillait constamment les poilus était néanmoins beaucoup mieux acceptée qu'on ne pourrait l'imaginer, ou que ça n'aurait pu être le cas par la suite, dans les décennies suivantes. On est dans une époque où les gens ont été forgés, si je puis dire, pour devenir des combattants. Et nous verrons tout à l'heure, il faudra y revenir aussi là-dessus, bien entendu, nous verrons jusqu'à quel sommet pouvait se hisser leur capacité de résistance, d'endurance, leur combativité, tout simplement. Alors, la cuisine est une chose et l'alcool qui va avec. Il ne faut pas oublier, bien entendu, que très souvent, on était obligé d'utiliser le vin, comme on l'avait fait dans bien d'autres siècles d'ailleurs et dans bien d'autres campagnes militaires. On était obligé d'utiliser ce vin comme garantie d'un liquide sain, tout simplement, parce que l'eau n'était pas potable, l'eau était même pouvait devenir dangereuse. On a vu des gens se laver les dents, se raser même au vin, tout simplement. L'hygiène, évidemment, ne fait pas partie des priorités dans les tranchées, même si c'est tout à fait le contraire de ce qu'on peut lire dans les manuels militaires. Il faut imaginer la saleté qui règne là, bien entendu, les eaux croupies, les excréments qui se sont accumulés, et puis les rats qui circulent partout dans ces tranchées. Faut pas oublier qu'on... Je vous fais grâce des odeurs, bien entendu, mais il ne faut pas oublier que pendant parfois plusieurs jours et plusieurs nuits d'affilée, il était absolument impossible de se déshabiller, de se déchausser, etc. Avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir sur la santé même des soldats, bien entendu. Alors où dorment-ils ces soldats? Essentiellement dans des casemates, par tranche de 2 heures. Les hommes dorment sur des paillasses ou sur des matelas fins. Ils dorment tout habillés, bien sûr, dans des sortes de sacs et couverts d'un manteau ou d'une couverture de laine. Ils n'ont pas le sommeil tranquille, faut-il le préciser. Il y a beaucoup de bruit, bien entendu. Il y a toujours des obus qui éclatent plus ou moins près de la tranchée. Et puis, il y a ces rats, encore une fois, qui peuvent aller jusqu'à grimper sur les combattants pendant leur sommeil, toujours à l'affût de quelque chose à manger. Et l'appréhension de la mort qui est là, qui est présente, qui fait partie de la vie des poilus, si tant est, comme le disait Soudag, si tant est qu'on puisse parler d'une vie. Voici un extrait d'une lettre d'un poilu à sa mère. « Depuis hier, écrit ce jeune homme, nous avons changé de logis. C'est toujours le même bon marché, mais c'est aussi toujours les mêmes logements souterrains où le confortable est un mot inconnu. Amélioration toutefois, nous avons touché 8 paillasses pour 17. Comme elles sont très étroites et qu'un seul peut y coucher, il y en a qui se mettent la ceinture. C'est toujours pour la France, écrit-il. » Il y a une forme d'ironie, Il y a une forme incontestable d'abattement, mais aussi de résignation qui s'empare peu à peu de tous ces combattants. Alors, il n'y a pas de congé, bien entendu, ou en tout cas, il n'y en a pas pendant les premières années de la guerre. Il va falloir attendre le deuxième trimestre 1917 pour que les soldats bénéficient d'un repos complet de 3 ou 4 jours d'affilée. Alors, à ce moment-là, on file, bien entendu, vers les villages de l'arrière. Heureusement, c'est repos demain pour 4 jours, écrit un de ces poilus dans un document passionnant qui s'appelle « Vie et mort d'un poilu héroïquement ordinaire, soldat au 274e régiment d'infanterie ». Repos, c'est ça qui ébatte. Que tu te dis, eh bien ma vieille, je préférerais rester de service, car à peine là-bas, ça commence, corvée par-ci, revue par-là, et puis exercice, et puis marche, et ça ne finit que le jour où on reprend le chemin des tranchées. Il n'y a jamais de repos parce que, évidemment, tout est fait constamment pour entretenir l'activité dans les tranchées. Jamais de temps mort, jamais le moindre repos.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Franck Ferrand, nous vous retrouvons pour la suite de votre récit sur les conditions de vie des poilus dans les tranchées.
Il faut que je vous dise un mot de la tenue de ces poilus dans les tranchées. Une tenue qui généralement est composée d'une salopette de toile bleue, parfois un pantalon de velours brun côtelé, type maçon ou menuisier, auquel il faut ajouter bien entendu la veste, la culotte, la capote de couleur bleu horizon, ou kaki pour les troupes coloniales et d'Afrique, et un casque peint aux couleurs de la tenue, de grosses chaussures. Tout est gros, tout est lourd, vous l'aurez bien compris. Voici ce que André Bridoux, dans son livre « Souvenirs du temps des morts », écrivait. C'était dans l'entre-deux-guerres, Bridoux faisait partie, vous savez, de ces anciens combattants qui voulaient surtout que la Grande Guerre reste la der des ders. « En plus de ses gros souliers, de ses lourds habits, écrit-il, le soldat portait un fusil, un équipement qui soutenait sa baïonnette et ses cartouchières pleines de leurs 120 cartouches en moyenne, un bidon, un masque à gaz, une musette et quelquefois deux, remplis de vivres et de grenades, le sac contenant le linge, les vivres de réserve et auxquels étaient attachés une couverture, une toile de tente, des piquets de tente, une paire de souliers de repos, un outil, un ustensile de campement, une gamelle et souvent une boule de pain. » Voyez que tout ça devait être terrible en fait. Chaque soldat promenait un petit peu sa maison avec lui. Je n'ai pas parlé du fusil bien sûr, hein, qui est considéré un peu comme l'élément sacro-saint de la fameuse tenue. Il y a aussi au bout du fusil la baïonnette, hein, cette fameuse rosalie qui sert dans les corps à corps en vérité tout à fait rare. Et il y a toujours cette attente de l'ordre qui va venir ou ne pas venir, de l'assaut, la crainte des gaz asphyxiants également dans certains secteurs du combat. Cette nouvelle arme a fait son apparition au milieu de la guerre. Elle a complètement terrorisé les gens, bien entendu. Et en recours, on utilise des masques à gaz qu'on appelle dans les tranchées les groins de cochon. D'ailleurs, je n'arrête pas de vous donner des termes qui sont les termes consacrés. Ça me fait penser à la réédition d'un ouvrage passionnant de Gaston Hainaut, un ouvrage très connu, hein, qui avait été édité une première fois au lendemain de la Grande Guerre. Ça s'appelle « Poilu tel qu'il se parle, dictionnaire des termes populaires récents et neufs ». Ça a été réédité en coédition par Hachette Livre et la Bibliothèque Nationale de France. Ça a été réédité là l'année dernière. Ce « Poilu tel qu'il se parle », c'est assez savoureux. On est constamment pris entre le sourire, l'ironie et puis bien entendu l'épouvante devant ce que le vocabulaire même des tranchées nous apprend du quotidien qui s'y mène entre la pluie, la boue, les rats, etc. Alors, évidemment, ce qui souffre le plus chez le poilu, ce sont les pieds, bien entendu, avec des échauffements permanents, des ampoules. Nous avons nos recettes, témoigne un soldat après la guerre. Hein, c'était François Sorniard, qui était sergent 47e RI. Nous avons nos recettes, autant que possible, pas de chaussettes, mais des bandelettes de toile légère enroulées autour du pied et des orteils, préalablement enduits d'une sorte de graisse blanche appelée philopode, qui nous est fournie par l'intendance. Mais pour avoir de la toile, il faut recourir au système D, ce qui n'est pas toujours facile. Et oui, parce que, évidemment, toutes sortes de fournitures viennent à manquer très vite dans le conflit, et il y a ceux qui savent se débrouiller et ceux qui savent moins. Rappelez-vous justement dans un long dimanche de fiançailles, la figure extraordinaire de ce personnage, Pire, hein, qui disait pire que la fouine. Les soldats ont des engelures sérieuses. Il y a des infirmiers et des infirmières, bien entendu. Il y a près de 100 000 femmes qui se sont engagées pour assister les blessés. Mais précisément, ce qu'elles aident, ce sont les blessés. Or, on ne considère comme blessés que les gens qui sont singulièrement atteints. L'odeur, les odeurs, je vous l'ai dit, les soldats doivent faire face notamment à ces odeurs de cadavres. L'homme ne peut s'émouvoir, nous dit Jean-Pascal Soudagne. Il n'en a ni le loisir, ni le temps. Il doit être imperméable aux sentiments de pitié, de tristesse. Il est nécessaire d'avoir cette carapace qui le protège de tout sentiment. Il doit absolument être blindé, nous dit-il. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on donnait beaucoup d'activités, beaucoup d'occupations aux soldats. Il y a les fameuses corvées qui sont censées empêcher les gens de trop ruminer, de trop réfléchir. On leur fait constamment consolider les tranchées, fabriquer des abris, transporter du ravitaillement, parfois transporter d'un point A à un point B, et puis le lendemain du point B à un point A, mais peu importe. Il y a les corvées les plus pénibles, ce sont celles de nuit. C'est là qu'on construit les nouvelles tranchées, c'est là que l'on consolide vraiment les choses. Chevalier, vous savez, Gabriel Chevalier, dans La Peur, au tout début des années 50, écrivait « On nous utilisait à des travaux de terrassement, à remettre en état de vieilles tranchées en vue d'une offensive nouvelle. Nous partions au crépuscule, nous marchions longtemps à travers d'anciennes positions et arrivés sur le terrain, on nous distribuait notre tâche par équipe de deux hommes, une pelle et une pioche. Nous rentrions au camp avec le jour et nous avions la matinée suivante pour nous reposer. » Qu'est-ce qu'on fait pendant le repos? On prend quelques photos, mais très peu, trop peu au goût évidemment des collectionneurs et des historiens. On joue aux cartes un peu, notamment à la manille, et la nuit on essaie de s'éclairer avec un morceau de bougie comme on peut trouver. Certains soldats vont jusqu'à chasser dans les tranchées, ou à braconner pour être plus exact. On n'a absolument pas le droit d'utiliser les armes pour tuer un lièvre par exemple, il ne faut surtout pas gaspiller de cartouches, mais enfin certains le font quand même. Et puis on lit beaucoup dans les tranchées, on écrit bien entendu, cette correspondance qui est devenue aujourd'hui quasiment un genre à part entière, et ce n'est pas Jean-Pierre Guénaud ici présent qui me contredira bien entendu. Et puis, mais alors ça c'est vraiment vers la fin de la guerre et dans des circonstances très particulières, il y a la musique un peu avec la formation de groupes carrément, ça c'est assez intéressant, c'est un phénomène qui a encore été relativement mal étudié. Il y a le théâtre, mais ça c'est pour l'arrière et c'est pour les temps de permission bien sûr, le théâtre aux armées. Et puis pour le reste, on fume énormément dans les tranchées. La Première Guerre mondiale engendre le premier réseau social de l'histoire moderne, écrit Jean-Pierre Guénaud, celui des poilus, de ces hommes issus de toutes les couches de la société qui viennent d'apprendre à lire et à écrire grâce à l'école de Jules Ferry et qui vont pouvoir écrire leur histoire dans leurs lettres et dans leurs journaux intimes en apprenant à vivre, à souffrir et à mourir ensemble dans le grand creuset des tranchées. Bonjour messieurs, je suis heureux de vous recevoir tous les deux pour évoquer ces tranchées de la Grande Guerre. Il y a beaucoup d'émissions sur la Grande Guerre prévues sur l'antenne d'Europe 1 pendant toute cette année 1914, mais il me semble que celle-ci est peut-être la plus sensible et celle qui tient le plus au cœur de nos auditeurs. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Oui, au cœur de l'histoire continue sur Europe 1, Franck Ferrand, vous êtes aujourd'hui avec Jean-Pierre Guénaud, écrivain et aussi historien, et Benoît Fidelin, grand reporter au magazine Pèlerin.
C'est un beau numéro que le magazine Pèlerin consacre au centenaire de 14-18. C'est vous, en fait, Benoît Fidelin, qui avait été le grand reporter, hein, l'envoyé spécial de Pèlerin sur les différents sites dont vous parlez, avec Stéphane Compoint, qu'on connaît bien ici, puisque nous avons consacré un certain nombre d'émissions déjà aux très belles photos qu'il prend, qui sont des photos aériennes, ce qui permet de prendre un petit peu de distance par rapport à cette glaise, par rapport à cette boue dont je parlais à l'instant.
Oui, tout à fait. Stéphane Compoint a fait un travail remarquable sur 700 kilomètres de front, hein, de la mer du Nord jusqu'aux Vosges. Et nous avons été, bien sûr, sur 8 endroits qui sont tout à fait emblématiques
de ce
front. Donc
certains qui ont conservé des tranchées, il n'y en a pas tant que ça, finalement, de tranchées conservées. Et elles sont de nature très différente les unes des autres.
Hein, oui, elles sont de nature très différente. Alors, elles sont conservées, elles ne sont pas un grand intérêt quand elles sont reconstituées. Mais malgré tout, il reste des tranchées. Il reste des tranchées, notamment, très à l'est, sur le Arc Ottmann-Villerkopf et sur le Linge, les sommets d'Alsace, où l'on s'est battu pendant deux ans, 1914 et surtout 1915. Et là, ce sont les tranchées qui nous disent énormément de choses. Elles nous disent à elles seules ce qu'a été la stratégie militaire un petit peu des hommes. Elles sont, chez les Français, construites en simple ciment, elles sont renforcées de gravier, flanquées de tôles et de rondins de bois. Côté allemand, on découvre un épais béton armé, des tranchées maçonnées avec des parois pavées. Elles nous disent d'un côté une guerre de l'offensive, de l'autre une guerre de la défense du terrain conquis.
Oui, et de l'attente et de l'attente et de l'attente, toujours avec ces assauts qui viennent régulièrement. Alors, les tranchées dont nous parlons sont des tranchées historiques, authentiques. Dans un très intéressant entretien qu'il donne à votre rédaction, Antoine Prost, qui se trouve être le président du conseil scientifique de la mission du centenaire, Antoine Prost dit qu'il s'est opposé, qu'ils se sont tous opposés aux reconstitutions de tranchées, car, dit-il, sans rats, sans boue, sans odeur, sans obus qui tombent et surtout sans la peur de mourir, prétendre faire ressentir aux visiteurs ce qu'ont vécu les poilus ne serait qu'une supercherie. C'est vrai qu'on a un mal fou à se remettre dans l'état d'esprit.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est vrai sur les tranchées reconstituées, qui c'est un subterfuge. En revanche, si vous allez, par exemple, je le disais, sur le Ottmann-Villerkopf, si vous allez sur la crête des Éparges, où a combattu Maurice Genevoix, vous avez sur place des restes de tranchées qui sont aujourd'hui des boyaux et qui sont absolument très très émouvante. On découvre là, d'abord parce que ce sont des terrains très où il y a énormément de sources qui sont très humides. On découvre ce que c'est que la boue. On découvre ce que c'est que le travail des infirmiers qui descendaient les gens en glissant sur la boue dans des tentes, comme le raconte Lucien Jacques dans un merveilleux livre qui vient de sortir qui s'appelle Carnet de Moleskine. Et donc, vous voyez vraiment et des tranchées qui sont reconstituées. Or, vous dites, suite à ce qu'Antoine Prost dit, que c'est vrai qu'à Verdun, vous rencontrez des guides qui vous disent « Ah oui, les gens veulent voir des tranchées ». Mais l'absence de tranchées dit aussi beaucoup de choses. C'est qu'à Verdun, il n'y avait plus de tranchées tellement c'était un combat d'artillerie. Il n'y reste plus que des boyaux. Et donc, elle nous dit ça. Et puis surtout, elles sont au sommet, ces tranchées. Toutes ces tranchées qu'on a visitées, elles sont sur les hauteurs.
Elles sont en altitude, en fait.
Elles sont en altitude parce que c'était une guerre où l'aviation était balbutiante,
ben
et
oui,
donc
oui.
Il fallait se hisser sur les sommets pour, comme on disait à l'époque, crever les yeux de l'ennemi. Et donc, il y a eu des combats acharnés. De 165 mètres, c'est Notre-Dame de Lorette. À près de 1000 mètres, c'est le Hartmann-Villerkopf. Et même si vous allez en Argonne, si vous allez sur la crête des Éparges, si vous allez sur le chemin des Dames, vous êtes à chaque fois sur des hauteurs qui sont, c'est vrai, striées de ces boyaux d'anciennes tranchées.
Oui, alors c'est évidemment ce qui nous frappe, nous, aujourd'hui. Encore une fois, ce sont les conditions de vie. C'est ce que j'ai raconté dans la première partie de cette émission. Et d'ailleurs, Antoine Prost le confirme. Il dit, quand on lui demande s'il y a un thème récurrent dans toutes les manifestations, dans tout ce qui a été prévu pour commémorer ce centenaire de la Grande Guerre, il dit... L'épreuve humaine, le destin individuel des soldats, les femmes qui remplacent les hommes, les restrictions, c'est notre vie ici en attendant vos lettres, ces expositions sur l'art des tranchées, ces spectacles sur le vécu d'un village de l'arrière ou ces multiples publications de carnets de poilus suivent un mouvement entamé dans les années 1990. On raconte l'histoire à hauteur d'homme. Vous n'êtes pas tout à fait innocent dans cette affaire, vous, Jean-Pierre Guénot, avec vos paroles de poilus.
Oui, depuis cette opération il y a 15 ans qui avait consistait à demander aux Français de nous envoyer les plus belles lettres qui dormaient dans leurs archives, sachant que cette guerre est précédée d'une révolution, l'école pour tous de Jules Ferry, qui fait que pour la première fois dans notre histoire, le peuple va être capable d'écrire lui-même son histoire à travers les lettres, 4 millions de lettres par jour dans les tranchées, et à travers ces journaux intimes que sont les carnets de tranchées.
Alors tout à l'heure, nous allons revenir évidemment sur cette très belle exposition du Musée des Lettres et des Manuscrits, entre les lignes et les tranchées, des photos, des lettres, des carnets de 14-18, dont certains sont de véritables scoops. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne justement sur le phénomène même de la tranchée. Vous nous dites, vous, Jean-Pierre Guénot, que ça n'est pas une invention de 14-18, la tranchée. Ça existait avant, d'une certaine manière.
Il y a eu le siège de Sébastopol. Il y a des guerres antérieures dans lesquelles on a étrenné ce genre de fortification, ce genre de choses. Cette tranchée, elle a quelque chose de très ambigu. Vous le disiez très bien. C'est à la fois une protection et c'est en même temps une prison. C'est en même temps un huis clos. On se demande souvent pourquoi en France, le soldat inconnu et les monuments aux morts sont si populaires. C'est parce que c'est une guerre d'artillerie. Un tiers des corps des 1 500 000 poilus français tués entre 1914 et 1918 n'ont jamais été identifiés. Ouais, il y avait dans l'esprit de chaque famille, pour ces gens qui étaient pris dans les pièges des tranchées, une question, un fantasme. Les gens pouvaient se dire, mais comme je n'ai pas la preuve scientifique de sa mort, peut-être a-t-il été fait prisonnier, peut-être a-t-il refait sa vie en Westphalie.
C'est le principe c'est même d'un long dimanche de fiançailles, hein, d'ailleurs. C'est l'attente et l'espoir d'un retour du soldat considéré comme disparu, mais dont on n'a jamais eu le corps.
Alors, ce qui est frappant, il y a quelqu'un qui est merveilleux pour décrire ça, c'est Apollinaire. Apollinaire a une technique de survie par rapport aux tranchées. Il érotise tout. Et dans ses lettres à Lou, Apollinaire ne cesse de comparer la nudité de la terre dans la tranchée. Ça, c'est quelque chose de très particulier. Les gens sont déjà, d'une certaine façon, dans leur tombe. C'est aussi leur tombe, les tranchées. Et la terre est pétrie de morts au fil des ans, au fil des mois. Il ne cesse de comparer la nudité de la terre à la nudité du corps de Lou. Il faut le faire. Apollinaire arrive à érotiser les tranchées.
Il glaise, en quelque sorte, après tout. Il y a une photo, d'ailleurs, dans le catalogue de votre exposition, absolument sidérante, avec ce visage affleurant hein, au milieu de la terre elle-même. La terre est saturée de corps et saturée de cadavres, bien entendu, y compris dans les tranchées. Je parlais de cette odeur de mort. Je pense que pour tous ceux qui ont fait la guerre de 14-18, évidemment, il n'y en a plus de nos jours. Mais je me rappelle leur témoignage lorsque j'étais moi-même écolier qui venait nous raconter ça à l'école. Le grand souvenir qu'ils ont était d'abord un souvenir olfactif, Benoît Philin.
Oui, c'est un souvenir olfactif et de fait, quand on voit les quelques photos de l'époque où pendant la relève, entre les pilonnages d'obus, on retire les morts, c'est absolument terrible, on imagine ce que ça pouvait être. Mais vous parliez, vous, tout à l'heure, finalement, de gens qui étaient aptes à un travail très très difficile. Et en fait, les tranchées nous racontent aussi une France où 60% des gens étaient des ruraux, étaient habitués à des travaux très très durs, étaient habitués à exercer plusieurs métiers manuels. Et là aussi, je cite, parce que je suis un amoureux de Maurice Genevoix, je trouve que ceux de 14 est une œuvre monumentale.
Oui. Il raconte, pour le coup.
Voilà, très sensitive, où il y a l'accent des gens. Il raconte comment un mineur du Nord, dans un village de Tressauveau, au pied des côtes de Meuse, qui existe toujours, et dans ce village, il réussit en 4 jours à refaire une tranchée. Et parfois, vous dites, c'est vrai, c'était un lieu de mort, c'était un lieu absolument terrible, mais c'était aussi un lieu où, grâce à l'ingéniosité et au travail des hommes, on savait y faire des choses incroyables. La preuve, c'est que Genevoix, toujours sur ses hauts de Meuse, près de la tranchée de Calonne, où est mort Alain Fournier le 22 septembre 1914, raconte comment
Pergaud
un capitaine
aussi était a disparu
Pergaud
dans
est mort
ce secteur-là.
Un petit peu plus bas, dans la plaine de la Voèvre, à Marcheville, un peu plus tard, en février 1915. Voilà. Et donc, il raconte comment un capitaine a su transformer son abri de tranchée. Il dit, il a creusé, il a massacré d'autres arbres, et l'abri a 3 pièces. Dans la cuisine, il y a un billot pour les viandes, un fourneau, et 3 chaises Henri II. Et après, il dit même, dans la salle à manger, il y a 6 chaises de paille, un service de vieux Limoges, de Ravier, et une cloche à fromage. Et Genevoix dit, une cloche à fromage, Seigneur, qu'allons-nous devenir? Bon, ça prouve qu'il y a eu, c'était bien sûr un lieu d'insuffisance, mais c'était un lieu où les gens ont su vivre. Et comme vous le dites, c'était un lieu de combat, mais c'était un lieu de vie. Et il y a une exposition extraordinaire à Strasbourg sur tous les objets qui ont été découverts dans les tranchées. Et on découvre énormément de choses, vous l'avez dit, sur le tabac, par exemple, qui sont énormément prégnants.
Alors vous êtes allé sur place dans les tranchées de l'Artois, dans la Somme bien entendu, sur le chemin des Dames, dans les forêts d'Argonne, à Verdun, ça évidemment, aux Éparges également, la colline Martyre comme vous l'appelez. Vous avez parlé des Américains, de leur rôle sur la Meuse. Vous parlez beaucoup des Canadiens aussi, etc. À un moment, vous nous parlez de Beaumont-Hamel, qui était une position britannique, par exemple, enfin,
oui,
etc.
Une position des soldats de Terre-Neuve. Voilà, où il y a aussi là d'anciennes tranchées, hein, qui sont magnifiées par de magnifiques arbres. Et alors, Beaumont-Hamel, c'est un lieu absolument terrible parce que c'est le lieu qui nous dit la mortalité terrible de la bataille de la Somme. Le 1er février 1916, il y a environ 900 jeunes terre-neuviens qui partent sur un champ de bataille qui est tout à fait visible. Aujourd'hui, vous voyez les positions françaises, les positions ennemies, et le lendemain, à l'appel, il n'y en a plus que 63 qui répondent. Donc ça nous dit quelque chose. Et toujours dans la Somme, sur les bords de la rivière, à Frise, il y a une tranchée où Blaise Sandrade a combattu. Et il disait, dans son livre « La main coupée », on pouvait s'embrocher d'une tranchée à l'autre à la baïonnette. Et quand vous voyez ces tranchées proche. Aujourd'hui, elles sont d'une proximité absolument incroyable. Effarante. Ouais. Et donc les mots de Blaise Cendrars nous reviennent à l'esprit.
Oui, c'était même pas une exagération, ce n'était même pas une licence poétique. À Beaumont-Hamel, c'est là qu'est mort notamment Saki, mon humoriste préféré. J'adorais ce très grand auteur, Hector Munro, qui était engagé volontaire pendant la Première Guerre mondiale et qui meurt là. On dit que ses derniers mots ont été « Éteignez cette cigarette, nom de Dieu ». 40 sites à visiter en famille, dans les pas des poilus, les champs de bataille vus du ciel. C'est ce que vous nous proposez dans ce numéro spécial centenaire 14-18 du magazine Pèlerin.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Extrait de la bande originale du film « La vie et rien d'autre » sorti en 1989 de Bertrand Tavernier sur Europe 1, un film avec Philippe Noiret et Sabine Azéma. Et Franck, vous êtes toujours avec vos invités Benoît Fidelin, grand reporter au magazine Pèlerin, et Jean-Pierre Guénaud, écrivain et historien.
Jean-Pierre Guénaud, vous êtes devenu un peu pour les Français le maître de cérémonie de la grande mémoire de cette guerre de 14-18, grâce à Parole de Poilu, à tout ce qui, tout ce que ça a suscité, bien entendu. C'était il y a une quinzaine d'années, vous nous disiez.
Ans,
c'était
absolument.
Il y a 15 ans déjà. Et là, en tant que commissaire, vous organisez au Musée des Lettres et des Manuscrits une grande exposition sur un certain nombre de carnets de guerre, mais alors là, qui sont d'une rareté, qui sont d'un intérêt tout à fait particulier.
Entre les lignes et les tranchées, oui, donc on est en plein dans le sujet, avec des fonds tout à fait étonnants. C'est au Musée des Lettres et des Manuscrits, de 122 boulevard Saint-Germain. D'abord, les 1500 photos laissées au départ par deux prêtres fantassins, les frères Roux, qui renouvellent totalement l'iconographie de la Grande Guerre, car ces deux prêtres fantassins, rapidement un seul, car Joseph est
oui,
mort,
il y en a qui meurt très tôt,
en décembre 1915.
Loïs, en fait, oui.
Formidable photographie que la censure a laissé passer parce que elle n'a pas fait attention à ces deux prêtres photographes. Donc leurs photos, qui sont aussi bien des reportages de guerre que des reportages sur la vie intimiste, sur la vie domestique, des photos documentaires, c'est absolument fabuleux, ce sont des chefs-d'œuvre. Deux généraux en colère, le général
Duplessis. Elles ont été retirées pour l'occasion, les photos, ça s'est passé comment?
Elles ont été tirées par le principal preneur de photos lui-même, Loïs Roux, qui en 1920 tire ses photographies en grand format, confectionne des albums et recopie ses carnets de tranchées avec trois niveaux stylistiques. Il recopie en noir la transcription directe des carnets, le commentaire qu'il en fait en vain est écrit en bleu dans ses volumes et il reviendra sur chaque événement dans les années 30 avec un peu plus de recul, avec une écriture rouge, c'est fascinant. Alors à côté d'eux, il y a deux généraux en colère. Le général Duplessis qui est intéressant, que c'est pas un perdreau de l'année, il va prendre sa retraite en 1917. Il est très compétent et il balance, entre guillemets, ceux de ses collègues qui ne le sont pas du tout. L'ordre typique qu'on donnait aux fantassins pendant les deux premiers ans de la guerre, c'était... les deux premières années de la guerre, attaquer au point du jour. Ça ne voulait rien dire. On est dans une guerre d'artillerie où tout est délimité à la seconde près.
Tout est mécanisé, disons-le.
Le point du jour, c'est très vague. Et alors surtout, Duplessis avait parmi ses officiers, dans un des deux régiments qu'il commandait, c'était un général deux étoiles, certain capitaine Charles de Gaulle. Et là, grand scoop, on a eu pour la première fois, c'était totalement inconnu, des rapports de tranchées de Gaulle tout à fait étonnants, parce que il est dans la castagne pure et dure, il n'a pas le temps d'écrire ses rapports lui-même, il les dicte à ses officiers qui ne maîtrisent pas encore l'orthographe de son nom. Et donc De Gaulle est écrit de façon fantaisiste D-E-G-O-O-L, en un mot D-E-G-A-U-D-E-L-E, c'est très très drôle, c'est très émouvant. Et puis alors il y a enfin un poilu amoureux qui s'appelle Maurice Drance qui lui sublime un peu comme Apollinaire la mort au quotidien en érotisant ses écrits et en écrivant écrivant aux femmes de sa vie, puis il y a aussi quelques écrivains, quelques peintres, qui sont un petit peu comme des plaques photo hypersensibles. Ils surréagissent. Ce sont des hyper-témoins.
Lorsque c'est Duplessis qui parle, lui c'est un général, vous nous dites, il n'était quand même pas au contact concret des tranchées.
Il était au contact direct. Il y a deux types de généraux. Le général qui dirige l'unité, le 23e régiment d'infanterie, où se trouve le caporal Loïs Roux, est un général qui est toujours volontaire pour envoyer ses troupes au casse-pipe, mais qu'on ne voit jamais en première ligne, c'est le général Bulot. À l'inverse, Duplessis est sans arrêt avec ses hommes. Duplessis est un humaniste, au sens où Montaigne l'entendait. Il a une empathie avec ses hommes, il est estimé par eux, il est sans arrêt en première ligne, et précisément, il ne cesse de critiquer les états-majors pléthoriques. Il y a des états-majors dans lesquels on trouve jusqu'à 1800 soldats qui ne sont pas sur le front, qui sont à l'arrière et qui sont l'incroyable administration paperassière qui accompagne la Grande Guerre et qui donne bien des états d'âme à ceux qui sont en première ligne.
Oui, évidemment, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de roulement.
Il y a très peu de roulement. Oui. Vous disiez tout à l'heure que les permissions seraient très, très tardives. Et alors, c'est cette lassitude. Les frères Roux sont dans le 23e régiment d'infanterie. C'est le plus courageux de toute la guerre. C'est celui qui aura le plus de pertes. C'est un des rares qui va engendrer des succès lors de l'offensive Nivelle en mars 1917. Un mois plus tard, ils reçoivent pour ça leur troisième fourragère. Mais un mois plus tard, pendant les mutineries, c'est dans ce régiment qu'on compte le plus de mutins. Alors même qu'on a affaire à des gens qui sont des anciens des corps francs, des multimédaillés, des héros, et qui votent certainement plutôt à l'extrême droite. Et ça, ça concorde avec les travaux récents de beaucoup d'historiens. Les mutineries de 1917 dans les tranchées n'ont rien à voir avec la révolution russe. Ce sont des hommes qui sont des soldats professionnels qui disent « ça suffit, la guerre est un métier, on l'a fait avec des gens compétents ». Où on ne la fait pas. Et c'est ce que dénonce sans arrêt Duplessis, c'est l'incompétence de certains généraux.
Et cette guerre d'artillerie, elle est directement sensible dans les traces qu'elle a laissées hein, sur le paysage même des zones de combat, en fait, Benoît Fidelin.
Oui, tout à fait. Il y avait un forestier de l'ONF qui, lors d'une récente visite, me disait, vous savez, il y a plus de témoins. Malheureusement, il y a les gens qui écrivent, il y a les poilus qui ont écrit et les lettres recueillies par Jean-Pierre Guénaud. Mais il y a aussi le sol qui parle. Et le sol, il parle très très fort à Verdun. Et à Verdun, notamment, le sol, il a été conservé parce qu'on a fait on a laissé pousser des futaies absolument magnifiques sur ces zones-là. Et ces futaies, en quelque sorte, elles ont protégé l'authenticité du champ de bataille, autant sur la Somme, autant sur le Pas-de-Calais. Et il y a les grandes parcelles céréalières ont pris le dessus et les tracteurs ont fait leur travail, même si on retrouve beaucoup d'anciennes munitions. Surtout ces champs de bataille-là, ils sont encore boursouflés. On a l'impression que le sol, il y a un allaitement du sol parce qu'il y a eu tellement de tirs d'artillerie. Sur Verdun, vous avez 60 tonnes encore de ferraille à l'hectare.
Nous avons un point commun avec Benoît Fidelin. Nous avons un point commun avec Benoît Fidelin. Nous sommes des spécialistes des traces. Essentielles sont à après, c'est la terre. C'est ce qui éclaire très bien Benoît Fidelin. Et c'est le papier.
Bien sûr.
Et c'est le papier.
Bien sûr. Alors, il y a la trace directe et la trace indirecte d'une certaine manière. Et puis, il y a ce que nous apprend le vestige. Lorsqu'on compare les tranchées françaises et les tranchées allemandes, elles ne sont quand même pas tout à fait identiques, Benoît Fidelin.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'un côté des tranchées, qui sont hyper bien fortifiés avec des pans.
Ça, c'est côté allemand.
Ça, c'est côté allemand parce qu'on est là vraiment dans le terrain conquis. Alors que côté français, on est plutôt, comme vous disiez tout à l'heure, dans l'offensive, hein, et on est sur des choses beaucoup plus meubles et tout. Et puis, la tranchée.
Improvisée, disons-le.
Beaucoup plus improvisée. Et dès le début, elles vont être improvisées parce que autant au mois d'août et surtout au mois d'août, alors qui est le mois les plus terribles au point de vue des pertes, on attaque sans trop se cacher. On attaque parce que on dénie la réalité du feu, on dénie le fait que le feu tue. Voilà. Et donc, on attaque,
c'est la guerre de mouvement.
Oui, c'est le colonel de Grandmaison qui dit tout se fait par la volonté et non pas par le feu. Voilà. Et on découvre après, et alors très tôt, quand Genevois arrive sur le terrain début septembre, il découvre des hommes qui la nuit, très vite, à la pelle bêche, avec leurs mains, essayent de se protéger contre cette furie des explosions. Et même Pierre Drieu-La Rochelle, le futur écrivain qui deviendra très controversé. À l'époque, rentre de garde et dit chaque ligne comme si elle prévoyait le danger trop tard, essayait de se cacher, de s'enfoncer dans la terre. Chaque homme grattait avec sa pelle devant lui.
Oui, c'est ça. Il y a un enfouissement progressif et terrible.
Parce qu'on découvre que le feu tue.
Bien sûr. Alors, tout ça, c'est le quotidien, effectivement, c'est l'épreuve, l'humain face à l'épreuve, c'est ce qui nous parle peut-être le plus aujourd'hui. Et l'on a tendance à oublier, dit Antoine Prost dans l'entretien qu'il vous accorde aux pèlerins, il dit on a tendance à oublier qu'il s'agit quand même d'une victoire. On parle beaucoup de l'épreuve subie et on oublie un peu la dimension politique, stratégique, victorieuse en quelque sorte. C'est vrai que la guerre peut aussi être pensée d'une manière plus générale, Jean-Pierre Guénot. C'est ce que vous essayez de faire dans l'exposition par certains aspects, et notamment à travers le témoignage, à travers l'interview de cet Américain. Ça, c'est tout à fait extraordinaire.
C'est tout à fait étonnant. C'est un des scoops. En mars 1917, un journaliste français, Camille Ferry-Pisani, envoyé spécial aux États-Unis, totalement américanophile, interview un homme très puissant, qui est un des 10 hommes les plus puissants des États-Unis, qui lui dit « Je vais tout vous dire sur les causes de la Grande Guerre et sur la raison pour laquelle les États-Unis vont entrer en guerre, mais à une condition. Vous ne révélez rien sur mon identité, je suis trop exposé. » Et Camille Ferry-Pisani va tenir parole, va même brouiller les cartes en prétendant que c'est un banquier.
Voilà, c'est ça,
c'est sans doute un industriel du calibre de Rockefeller. Et alors, ce texte fait froid dans le dos, parce que il nous montre que, en fin de compte, la planète est déjà mondialisée, et l'intérêt essentiel de ces hommes d'affaires, c'est de faire du business.
Mais il faut expliquer ce que dit ce pseudo-banquier, justement, hein, c'est quand même...
Eh bien, il dit d'abord que il faut de temps en temps une bonne guerre pour éloigner les peuples de la tentation du bonheur. Ça donne froid dans le dos. Et sa conclusion est terrible, elle était souvent trappée de ces citations. Sa conclusion est terrible parce qu'elle évoque les vraies motivations de cette guerre. La première phrase, je pourrais vous confier que lorsqu'un peuple est sur le point de se sentir trop riche, une guerre est nécessaire pour l'arracher à la tentation du bonheur. Ça ne s'invente pas. Et puis les quatre dernières lignes, les luttes entre les peuples, mais c'est le seul moyen que nous avons de régler de trop lourdes différences en banque. La grande guerre, guerre de tarifs, nécessité d'un traité douanier avantageux, espoir d'une expansion économique nouvelle.
Ça a presque l'air trop beau pour être vrai, si je puis
dire. Plus encore que le Kaiser, ce sont les banques de Berlin qui ont voulu la guerre. Alors c'est terrible parce qu'on voit que la dimension économique est déjà là. La planète est déjà mondialisée. Et ce qu'on ne raconte pas, c'est... Beaucoup d'historiens s'interrogent sur les vraies raisons de la Grande Guerre. C'est un peu court d'expliquer les choses par l'assassinat d'un certain archiduc, par ces dernières gouttes d'eau qui ont fait déborder un très haut vase. La toute première guerre mondiale, c'est très certainement la guerre coloniale. C'est celle dont le hors-d'œuvre va être la conquête de l'Algérie par la France entre 1830 et 1850. Et c'est le mobile essentiel de toutes les guerres. C'est le partage du grand fromage mondial, surtout à une époque où l'obsession des Allemands comme des Français, c'est de se dire qu'après l'essor de ce qu'on a appelé après coup la belle époque, eh bien, il va falloir trouver des sources d'énergie, des matières premières, de la main-d'œuvre à bon marché pour continuer sur cet essor. Et c'est le partage du grand gâteau mondial, d'autant plus que certains empires battent de l'aile. La France va quand même se refaire sur le dos de l'ancien empire ottoman. La France, en 30 ans, entre 1880 et 1910, est devenue le second empire colonial du monde. C'est quand elles sont là. Vous savez, l'Alsace et la Lorraine...
Une autre lecture hein,
de
la guerre.
Et les provinces perdues qui ont aidé les Allemands et les Français à intoxiquer leur peuple, l'Alsace et la Lorraine ne pèsent pas lourd à côté de ces formidables conquêtes en Afrique noire, en Afrique du Nord, en Asie, dans le Pacifique et ailleurs.
Il est beau qu'une exposition ou un dossier spécial dans un magazine ait la capacité double et de faire frémir, hein, d'émouvoir et de faire réfléchir et de faire songer à ce qu'a pu être, par exemple, la cause essentielle,
c'est très
profonde,
important,
lointaine
parce que
de la
l'enfumage
guerre.
Est tellement efficace à l'époque qu'il porte encore ses fruits aujourd'hui. Ce qui est formidable là, c'est que grâce aux cicatrices de la terre, Benoît Fidelin, grâce aux cicatrices du papier, les traces parlent encore 100 ans après et continuent à faire mentir certaines fausses évidences.
Entre les lignes et les tranchées, vous avez d'ailleurs co-signé avec Gérard L'Héritier le très beau catalogue de cette exposition qui est au Musée des Lettres et des Manuscrits à Paris au 222 Faubourg Saint-Germain. Et puis donc ce numéro spécial de Pèlerin. Benoît Fidelin, vous êtes allé avec Stéphane Compoint à la recherche de tous ces sites qu'on peut encore visiter en famille dans les pas des poilus, les champs de bataille vus du ciel. C'est dans le numéro de Pèlerin qui sort en kiosque aujourd'hui même. Merci à tous.
À suivre la chronique Retour aux origines, Franck, vous répondrez à la question d'Alexis qui s'interroge aujourd'hui sur l'origine des expressions prendre la poudre d'escampette et filer à l'anglaise. C'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, vous répondez à la question d'Alexis via la page Facebook de l'émission. Alors, quelle est l'origine des expressions prendre la poudre d'escampette et filer à l'anglaise ?
Eh bien, vous savez, je ne suis pas persuadé d'avoir exactement les éléments pour répondre à la question d'Alexis. La poudre d'escampette, c'est une formule, c'est une expression assez douteuse, pour tout vous dire. Alors, escamper, tout à fait autrefois, au XVIe siècle, c'est un terme, d'ailleurs un terme de tactique, hein, qui est assez synonyme de s'esquiver, de décamper. Alors, prendre la poudre d'escampette, ce serait en quelque sorte avoir le pouvoir magique de s'éclipser d'un coup. On parle aussi, vous savez, à l'époque, on parle beaucoup hein, de toutes ces poudres magiques, on parle de poudre de perlimpinpin, par ailleurs, mais ne me demandez pas l'origine de la poudre de perlimpinpin parce que je ne la connais pas non plus. Oh, elle est sans doute à chercher sur les foires et les marchés et dans les baraques des charlatans, probablement. Quant à l'expression filer à l'anglaise, alors ça c'est d'autant plus étonnant qu'en vérité, on devrait dire filer à la française. Vous savez que les Anglais d'ailleurs disent take French leave et c'est beaucoup plus juste parce que autrefois, il était de coutume dans les salons donner son congé, hein, de ne pas aller saluer la maîtresse de maison ou le maître de maison au moment où l'on voulait s'éclipser, on essayait de se rapprocher discrètement de la sortie et l'on s'en allait sans donner signe de vie. C'était la façon dont on procédait à Paris et en France. En Angleterre, en revanche, c'était considéré ça comme une véritable, comme un camouflet, comme une véritable impolitesse. Et donc, filer à la française, ça voulait dire s'en aller sans dire au revoir. Sans doute par haine atavique, les Français ont retourné l'expression et parlent de filer à l'anglaise. Je ne suis pas persuadé qu'ils aient raison de le faire. Et d'autant moins que si vous prenez dans les autres langues les équivalents, on parle bien de irse alla francesca en italien, de französischen Abschied nehmen en allemand, ce qui veut bien dire que pour l'Europe entière, s'éclipser en douce, c'est bien filer à la française en vérité.